On n'a pas la prétention de vous apporter des choses nouvelles. Ce qu'on va échanger avec vous, il est très probable que vous le sachiez déjà. Parce que les gens dans les couples, et en relation d'aide, nous l'avons appris, nous l'avons réalisé, les gens ont en eux la solution qui correspond à leurs problèmes. Mais la solution, elle est enfouie. Et nous, par l'exercice de l'écoute, nous essayons d'être des miroirs pour eux, pour leur permettre de découvrir leurs solutions. Alors c'est un petit peu ce que nous essayons de faire. Alors on va commencer par un petit rappel de ce que nous avions vu la dernière fois où nous sommes intervenus. Vous vous rappelez du thème ? Écouter était être un acte d'amour. Parce que écouter, c'est quelque chose qui n'est pas si facile. Alors que dans le couple, écouter est quelque chose de très important. Alors, un petit rappel, nous avons vu qu'il ne suffit pas de bien entendre pour écouter. Ce qui se passe le plus souvent est que l'on pense savoir ce que l'autre veut dire, mais vous ne pouvez pas écouter quand vous essayez de deviner la pensée de l'autre. Nos idées préconçues réduisent notre capacité d'écoute. On entend souvent ces expressions des femmes parlant de leur mari, mais ils ne m'écoutent pas. On avait pris un témoignage pour vous. La plupart des hommes ne s'intéressent qu'aux faits et qu'aux rapports logiques qui les relient. Et c'est un peu pour cela qu'ils ont du mal à écouter ce que nous allons voir tout à l'heure, les émotions de son épouse. Les femmes non plus, on a vu qu'elles ne sont pas d'excellentes écoutantes. Elles ont tendance à interpréter, à deviner ce que leur mari, leur partenaire veulent dire. En essayant de deviner, on ne peut pas écouter. On devine. Nous avons vu que la Bible donne une grande importance à l'exercice de l'écoute. Car qui ne sait pas écouter, ne sait pas non plus aimer. Le sage Salomon, il a dit, celui qui répond avant d'avoir écouté, fait un acte de folie. Et ça tire la confusion.
Alors, je recommence. Je dis bonjour, parce que ça ne fonctionnait pas, je n'avais pas ouvert. Et ce matin-là, je disais en face, mais je vous sens trop choc. Je ne sais pas pourquoi. Je disais en face que j'ai les genoux qui sont trop choc. Et je ne sais pas pourquoi. Je suis un petit peu. Ça arrive de temps en temps. Comment ? Ok. Bien. Alors, nous avons conclu aussi que écouter, c'est se mettre totalement à la disposition de l'autre. Vous vous rappelez ? Écouter, c'est s'intéresser à entendre le désarroi et peut-être la souffrance que peut ressentir votre partenaire. Quand il ou elle dit, tu ne m'écoutes pas. C'est pour cela qu'on dit qu'écouter exige une dissociation entre vous et celui qui parle. Écouter, c'est aussi prendre la distance avec son propre besoin de reconnaissance. Vous vous rappelez aussi? C'est pour considérer aussi celui de l'autre. Parler est un besoin, nous l'avons dit. Écouter, c'est un art.
Écouter, c'est donner de son temps. Cela veut dire, en premier lieu, d'accepter de laisser tomber toutes vos priorités pour être à l'écoute avec votre cœur, avec votre corps, au service de l'autre. C'est l'attitude la moins évidente de l'écoute. Alors, avec une citation, quand nous cessons d'écouter, nous cessons d'aimer.
Oui, écouter, ce n'est jamais perdre son temps avec les siens. Quand vos enfants vous parlent, essayez de vous intéresser à leurs ressentis. Vous parviendrez à faire évoluer l'amour au sein de votre famille et vous allez conserver une bonne communication. Écoutez ainsi permet d'encourager la parole à vos enfants. Parce que, il y a des familles, dans des familles, ça se fait quand l'enfant parle, tais-toi, on t'a rien demandé, tais-toi. Et cet enfant-là, quand il grandit, eh bien, il ne peut pas parler. Ce n'est pas parce qu'il est timide, c'est parce qu'on l'avait empêché de parler et on ne l'écoutait pas. Nous avons vu aussi que nous voulons être aussi en mesure de comprendre le besoin de notre conjoint et de pouvoir reconnaître ce qu'il vit ou ce qu'elle vit.
Et puis, à la fin, vous êtes intervenu avec... Et vos interventions ont eu l'intérêt de nous montrer que c'est important d'avoir des attitudes pour encourager les couples. Vous vous souvenez ? Je te souviens, j'étais intervenu, Karine était intervenue, et là on s'est dit qu'il faut qu'on revoie les choses. Parce que c'est vrai que c'est important, il faut à la fois faire l'effort d'écouter avec son cœur, mais l'autre doit aussi faire nous encourager, parce que écouter n'est pas une chose facile. Alors on va voir ça aujourd'hui. Une petite attention sur les images.
Fabrice, vous voyez au fond ?
Désolé, je ne voulais pas travailler.
Tu ne voulais pas me réveiller ? Mais tu sais très bien que je t'attends tous les soirs. Hein ? Ça me rend folle que tu rentres à cette heure. T'étais où ?
Tu sais très bien où j'étais. Tu sais que je travaille dur, mais que j'ai pas le choix. Tu t'énerves pour rien.
Tu m'énerves pour rien ?
Tu
m'énerves pour rien, mais tu rentres à toi, tu as toujours une bonne excuse. Je m'énerve pour rien.
Je passe tout le temps à me faire des reproches alors que je fais rien de mal. Je dirais que ça te plaît de te plaindre tout le temps.
Parce que je te fais des réflexions sans raison en fait. Un coup, c'est un projet terminé. L'autre fois, c'est quoi, c'est un collègue à aider. Oh, attends, mais je crois que j'ai la meilleure. C'est, ah oui, ton patron qui a une panne de voiture, mais oui. Mais qu'est-ce que tu caches, en fait, tu te fous de ma gueule ou pas?
C'est quoi qui m'a tendu ici, hein? À part vous t'écouter m'engueuler, dire que c'est tout le temps de ma faute. Sortir prendre un verre avec mes potes, faut que tu passes ta journée du lendemain à me saouler.
Ah ouais, parce que tes potes, ils te sont pas bons. Mais alors, il faut aller tes potes alors.
Je vais devoir encore la supporter longtemps, ta paranoïa.
Ma paranoïa ?
Ta paranoïa,
mais en fait, la vérité, c'est que t'en as rien à foutre de moi. Tout ça, c'est de ta faute. Donc, assume au lieu de mettre ça sur mon dos.
T'as toujours raison, moi j'ai toujours tort, je passe mon temps à m'excuser. Mais tu réalises un peu ce que tu dis ou pas?
La vérité c'est que tu ne comprends pas.
C'est encore de ma faute, quoi. Très bien, je vois. Vous savez, aucun couple n'est parfait. Mais les couples qui durent s'assure au minimum de combler les besoins primaires de leur partenaire. Si ces besoins ne sont pas comblés, on se retrouve dans un état émotionnel qui nous fait nous disputer, être susceptible, aigri. C'est la raison pour laquelle il vous faut installer une communication saine. Allez-y. Exprimez vos besoins plutôt que de reprocher à l'autre de ne pas les avoir comblés. Allez, vous êtes venu me voir pour résoudre cette situation. Alors, mettez un peu votre fierté de côté.
Ok. De quoi t'as besoin ?
J'aimerais que tu passes plus de temps avec moi. Ça me rend malade de voir que tu passes plus de temps avec tes potes plutôt qu'avec moi. Je me sens ignorée. Je me sens seule dans cette relation. J'aimerais te retrouver.
Fabrice, vous comprenez ce que Nathalie vous dit ? Pour se sentir comblée et aimée, elle a besoin de temps de qualité avec vous. Pas juste votre présence, mais que vous partagez quelque chose ensemble. Si vous vous assurez que je vais vous trouver, je suis sûr que beaucoup de choses iront mieux. Nathalie, essayez de demander la même chose à Fabrice.
De quoi t'as besoin ?
J'ai besoin de me sentir libre et à l'aise avec toi. Quand je rentre tard du boulot, c'est J'aimerais, c'est ton soutien, ta compréhension. Si je bosse aussi dur, c'est pour nous deux. J'aimerais par-dessus tout, te sentir plus fier de moi.
Nathalie, pour se sentir comblé et aimé, Fabrice a besoin de votre soutien. Il travaille dur et il aimerait pouvoir compter sur vous quand il rentre du travail. Pas juste dans les mots, mais aussi dans l'attitude. Je suis persuadé que ça lui donnera plus l'envie de partager avec vous. Vous voyez, chacun de nous a des besoins que nous ne sommes pas toujours capables d'exprimer. Nous les gardons à l'intérieur de nous et ça nous rend plus. La plupart des querelles de couple viennent surtout d'un manque de communication. Dorénavant, plutôt que d'exprimer un mal-être, essayez toujours de communiquer vos besoins. Oui, chérie.
Tu te rends compte de l'heure?
Chérie, le dernier couple était un cas compliqué.
Oui, c'est bon, on a un problème à la maison, s'il te plaît. On en a suffisamment. Dis-moi, si c'est pour rentrer à l'hôpital, tu peux te laisser dormir à mon bureau.
Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi le problème?
Le problème, c'est que tu passes ton temps à travailler.
Mais attends. Tu sais, j'ai une semaine chargée alors, ce week-end.
Ça ressemble à la réalité?
Mais c'est la réalité.
C'est la réalité. Ils avaient du mal à exprimer leur... aux besoins, tous les deux. Aujourd'hui, nous parlerons des besoins émotionnels, mais plus spécifiquement ceux de la femme, parce que nous n'aurons pas suffisamment de temps pour parler de tous les besoins. On va parler essentiellement du besoin émotionnel de la femme par rapport à l'attention et à l'émotion. Et dans une autre occasion, nous parlerons pour les hommes, des besoins des hommes. Ces besoins ont été cités là. Alors vous permettez qu'on parle, qu'on mette les femmes à l'honneur d'abord, et puis dans une autre occasion. Attention aux hommes que je m'adresse. Est-ce que vous avez accepté qu'on parle des besoins spécifiques aux femmes? Et puis la prochaine fois, nous prendrons notre revanche. Parce qu'on a besoin de se faire entendre là aussi.
Une exception, parle aux hommes d'abord. Non. La prochaine fois, c'est les besoins de la femme sont plus longs.
Oui, c'est vrai. Là, les besoins de la femme sont plus longs pour
c'est pourquoi on a choisi deux seulement aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous avons choisi deux besoins seulement aujourd'hui. Parce que c'est trop long. Alors, au début de la relation, quand on est amoureux, on ne voit en l'autre que des qualités. Même les petits défauts en sont perçus comme tels. On avait l'impression qu'on était très à l'écoute de nos émotions. Alors, pour la jeune fille, il suffit de penser que vous avez trouvé la personne qui saurait vous comprendre, vous rendre heureux. Cela conditionnera aussi positivement votre façon de l'écouter. De plus, on est persuadé, à cette étape de la vie, que c'est la personne que Dieu a choisie pour nous. D'après des études de spécialistes, nos réactions émotionnelles seraient programmées dès la naissance. D'une part, de manière structurée, hommes et femmes. Et de l'autre manière, empirique. Notre manière, c'est la manière empirique. Tout cela va jouer un grand rôle sur notre façon de communiquer, de ressentir et d'analyser une situation. Quand des problèmes de communication apparaissent et se répètent, ce qui se passe le plus souvent, c'est que chacun est convaincu que c'est la faute de l'autre si on est arrivé là, comme vous avez vu dans le film. De plus, on est convaincu que l'autre ne fait rien pour changer cela. On en arrive aussi alors à penser que si c'est à cause de lui ou elle, que tout ça ne marche pas. Il faudrait qu'il ou elle change. Et si vous vous cramponnez à cette conclusion, il y a de fortes chances que vous finirez par tomber malade.
Quand on parle de communication, on sait tous qu'il y a forcément trois facteurs qui interviennent dans sa qualité. Il y a l'émetteur, le message et le récepteur. Donc ces trois acteurs vont intervenir sur la qualité du message. Mais quand on parle de couple, la communication n'est jamais évaluée de la même manière qu'ailleurs. À votre avis, pourquoi ? Une réponse. Même.
Parce qu'il y a des affects.
Parce qu'il y a
des affects qui sont plus importants.
Des attentes qui sont plus importantes, oui. Il y a des attentes. Ah, des affects, oui. L'affectivité est plus importante, oui. Oui, c'est vrai. On attend des choses dans le couple qu'on n'attend pas ailleurs. Et quelqu'un veut répondre tout simplement parce qu'on est en couple. Mais ça voulait dire encore quoi ? Mais parce qu'on est en couple, dans cette relation, on est appelé à faire un. Et c'est la seule relation où on est appelé à faire un. On est dans une relation d'interdépendance. On dépend de l'autre. Nos réactions, non seulement elles sont programmées depuis notre enfance, depuis toute notre histoire, mais elles sont encore programmées par rapport à la manière dont l'autre réagit. C'est ça, là. Hein, ce que nous avons vu la dernière fois, que dans le couple, on s'écoute toujours à travers un filtre. Vous vous souvenez ? Le filtre conjugal, qu'est-ce que c'est ? Marie, si tu t'en souviens, dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Le filtre conjugal, c'est simple. C'est que dans le couple, on n'écoute pas forcément, prioritairement, ce qui est dit, mais la manière dont les choses sont dites. Parce qu'on veut s'assurer dans le couple si on se sent aimé de l'autre qui nous fait un reproche. On peut se faire un reproche, mais la manière de le faire est très importante. Très importante. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on s'était mariés. On s'était mariés parce qu'on croyait qu'avec telle personne, que la vie serait meilleure, que l'autre personne nous comprendrait et nous assurerait son amour jusqu'au bout. Alors, la communication dans le couple comporte à la fois un message rationnel. C'est les faits qui sont relatés. Un message rationnel et un activateur émotionnel. Alors rappelez-vous ça. Dans le couple, il y a un élément nouveau qui entre dans la relation. On va l'appeler l'activateur émotionnel. C'est lui qui va déterminer l'espace d'écoute et qui va rendre plus facile la compréhension des non-dits et donne l'assurance d'être aimé. Écouter dans le couple est d'abord une affaire de cœur. Vous êtes d'accord avec moi ? Écouter son épouse est une marque d'attention. Alors, mesdames, vous êtes d'accord avec moi ? Alors là, je vois quelqu'un qui n'était pas d'accord, là, il est d'accord. Mais c'est une dame. Écouter son épouse est une marque d'attention. Alors, je fais juste une parenthèse pour que vous puissiez comprendre, on ne peut pas tout dire. Mais il est reconnu par des spécialistes, par des gens qui travaillent sur des couples, que la plupart des hommes ont des besoins spécifiques. Je vais vous en noter trois rapidement. Le besoin que leurs compétences soient reconnues. C'est dans leur gène, dans leur cerveau. Le besoin de valorisation. Quand vous entendez dire que les hommes sont comme des dauphins, on n'y revient pas. C'est que là, pratiquement tous les hommes sont comme ça. Les dauphins, vous savez comment on les dresse? On leur donne du poisson. Et quand on leur donne du poisson, ils sont... Ils font beaucoup de choses. Ils sont... Eh bien, alors, un troisième besoin, c'est les hommes, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'ils apprécient beaucoup que leur épouse leur fasse confiance. Vous voyez que confiance et compétence sont des choses qui sont très proches. Donc les besoins des hommes ne sont pas très... Ils peuvent être regroupés. Mais les femmes ont des besoins plus longs, comme avait dit Emmanuel. La femme, elle a besoin, elle attend de son époux, que celui-ci l'écoute. Mais tous les deux ont besoin d'être écoutés, c'est vrai. Mais l'écoute de la femme, elle est différente. Écoutez bien, une femme attend que son époux l'écoute dans l'émotion qu'elle vit. C'est ça la différence. L'homme, il est souvent logique, rationnel, mais la femme, elle n'a pas le même langage. J'ai pris des années à comprendre ça, hein, et j'apprends toujours. Alors, la femme, trois besoins émotionnels. L'écoute de l'émotion qu'elle vit. Une femme est sensible aux attentions, et je vous dis que là encore, c'est génétique, c'est dans ses codes. Vous apportez une rose pour une femme, ça va toucher, ça va toujours la toucher. Apportez une rose pour un homme, il vous dira merci. N'est-ce pas, Bertrand? Mais ça n'aura pas le même effet.
Donc les femmes... Parce qu'il y a des hommes qui aiment les fleurs, qui aiment ça. Et même si vous lui portez aussi une rose, comme du France, ça n'aura pas le même effet. Je disais, c'est vrai, il y a des hommes aussi qui aiment les fleurs, mais même si vous lui portez, vous lui donnez une rose, ça n'aura pas le même effet que si vous donnez à une femme une rose.
Oui, et puis les femmes sont très sensibles aussi au respect de ce qu'elles font, du travail à la maison. Hein, vous allez rentrer, salir ce qu'elle fait, elle va s'énerver, c'est presque pareil pour toutes les femmes. Les hommes n'ont pas forcément les mêmes réactions. Je ferme la parenthèse, j'ai dit ça juste pour que vous puissiez comprendre. Quand les couples se séparent, ce n'est pas forcément parce qu'ils ne s'aiment pas. La différence, c'est que c'est parce qu'ils ne se sentent pas aimés. C'est un rapport émotionnel. C'est quand ils se divorcent après qu'ils réalisent que oui, il n'est pas si mauvais que ça, On s'aimait quand même. Mais pourquoi on est arrivé là? On arrive là, comme vous l'avez vu dans le film, parfois parce qu'on n'a pas su exprimer notre demande, on ne fait que des reproches en espérant que l'autre sera capable de deviner ce qu'on veut, puisqu'on est marié, pourquoi pas. Et lorsqu'on ne se sent pas aimé, on se dit, on a tout essayé, on va se séparer.
Donc c'est parce que aussi, l'un n'a pas pris le temps d'écouter l'autre. Souvent.
Alors, donc, chacun d'entre nous avons des besoins émotionnels, mais parfois, nous avons du mal à les exprimer. On verra ça. Si vous voulez, une autre fois, nous exprimons des reproches et non des demandes. Nous devrions pouvoir les exprimer, mais aussi sans toucher à la personnalité de l'autre, quand celui-ci se mettra naturellement sur la défensive. Au lieu de formuler une demande, nous faisons des reproches. Et la communication devient insupportable et le couple peut se retrouver dans un état de crise. Des gens qui s'aiment peuvent se retrouver dans un état de crise. Alors quelqu'un disait... Ah, vas-y.
Alors, lorsque vous traitez avec des gens, rappelez-vous que vous ne traitez pas avec des créatures logiques, mais des créatures de l'émotion. Parce que tout est émotion, tout est émotion. Il est rapporté que Jésus était à plusieurs reprises envahi d'émotions dans Luc 13. Lorsque le Seigneur l'ayant vu, il fut ému de compassion pour elle.
Alors, on va essayer de retenir quelque chose. Parce qu'on aura à échanger. Et pour mieux se comprendre, on va retenir cela. Je vous le demande. On va essayer d'être simple. Les femmes sont sensibles aux attentions et à la compréhension de leurs émotions. Les femmes sont sensibles aux attentions et à la compréhension de leurs émotions. Compréhension de leurs émotions. Ce que les hommes ont du mal à faire. les hommes sont sensibles à leur valorisation et à la compétence qu'on leur reconnaît. Quand on retient cela, on parvient à comprendre comment nous définissons. Les hommes se définissent par leur capacité à atteindre un objectif. Sur le plan émotionnel, c'est comme ça les hommes se définissent. Et lorsqu'on retient ça, on arrive à comprendre leur comportement. C'est vrai que j'aurais aimé avoir faire des exercices avec vous pour vous montrer que presque tous les comportements des hommes s'expliquent par cette définition. On est guidé dans l'écoute, même dans nos gestes, dans nos sentiments, par ce désir de nous reconnaître dans notre capacité à atteindre le but. Ça, c'est masculin.
Alors, imagine, je vais le dire un peu personnel, un copain dans la salle. Je prends Guylaine et Lucien. Guylaine vient dire à Lucien, Lucien, tu sais, moi, j'ai pas compris, j'ai pas compris quelque chose, j'ai mal fait. Je ne comprends pas. Et pour moi, je pense que c'était bon. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner tout parce que ça va allonger. Et tu me défends si tu vois que j'ai raté. Et Lucien qui dit à Guylaine, ah, mais je t'avais déjà dit. Mais ça, d'où c'est pas dit ça? Ou fait quand même? Elle est bloquée. Elle ne pourra plus venir lui dire encore quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que, comme François a dit, les hommes, c'est
le mot m'échappe, la façon de se définir.
Voilà, leur façon de se définir, c'est la compétence. Pour lui, il a vu qu'il fallait donner un conseil. Mais elle est venue, avec toutes ses émotions en elle, lui porter son problème. Elle n'a pas besoin de conseils. Comme Franz a dit, les solutions, les réponses sont déjà en nous. Elle sait, Guylaine, ce qu'elle veut. Elle sait. Mais ce n'est pas ce qu'elle attendait, le Lucien. Simplement, que le Lucien puisse porter plus d'attention à l'émotion qu'elle vit.
Et comme Lucien aime sa femme, il va dire à sa femme ce qu'il est prêt à recevoir.
Aussi.
Et c'est pour ça qu'il lui donne un conseil. Il lui donne un objectif à atteindre. Lucien est là, tu comprends? Ça te va, Lucien? Alors, les femmes se définissent par la qualité de la relation qu'elles ont avec les hommes. Et c'est comme ça les femmes réagissent. Si la qualité de la relation n'est pas bonne, eh bien, tout le reste ne va pas fonctionner. C'est vrai?
Oui!
Eh bien, ceux qui ont de l'expérience disent oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est la porte d'entrée des femmes.
Et c'est tellement vrai, vous savez, quand une femme a un problème, elle va parler. Elle va prendre son téléphone, elle va parler. Le monsieur, lui, va rentrer dans son coin, dans sa grotte, va s'enfermer pour essayer de résoudre. Mais les femmes, c'est pas si évident. Elles vivent là, dans toutes leurs émotions. Elles ont besoin de parler, de dire les choses.
Oui, la femme va prendre son téléphone pour se mettre en relation, et l'homme, il va dans sa grotte parce qu'il aime atteindre son objectif et souvent tout seul.
Ouais.
Vous voyez que tous nos comportements, tu reconnais ça, Nicolas, dans ton vécu. Mais en plus, quand on ne sait pas, on ne connaît pas nos propres émotions, on est frustré. Vous voyez des hommes qui sont frustrés des fois parce qu'on n'aura pas appris leurs propres émotions. On apprend beaucoup de choses sur les femmes, mais pas assez les hommes sur eux-mêmes. Je vous donne un petit exemple. Dans notre bureau, Marise avait son ordinateur à droite, le mien à gauche, et nous étions tous les deux en train de travailler. Et les enfants t'ont appelé. Et tu étais en train de taper. Et je vois qu'elle a le téléphone, et elle continue à taper. Je dis, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Et elle me parle, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le tiroir de mon clavier, je l'ai poussé brutalement. J'étais fâché. Mais je ne savais pas pourquoi j'étais fâché. Je me disais pourquoi je ne suis pas capable, comme elle, de téléphoner, d'écrire, de faire un tas de choses. Je me disais qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien chez moi. Et c'est pour cela que j'étais fâché, pas contre elle. Ce n'est que des années plus tard que j'ai appris que la plupart des hommes, c'est dans leur cerveau, ne savent faire qu'une seule chose à la fois. Quoi? Oui, alors, et ça se passe dans nos cerveaux. Ça se passe dans nos cerveaux. Les gens ont étudié, ont compris que beaucoup d'hommes sont comme ça. Pas forcément tous, mais la plupart des hommes sont comme ça. Ils sont séquentiels. Un objectif, un autre objectif, un autre objectif. La femme, elle est pluri-émotionnelle. Elle peut gérer plusieurs choses à la fois. Dans son cerveau, elle partage ça. Les techniciens de la communication disent que ça se passe, ça s'expliquerait, on va dire ça comme ça, au niveau du cerveau, des hémisphères du cerveau. La femme, dans son cerveau, elle a deux hémisphères qui sont pratiquement de même taille. Les hommes ont un plus gros corps. Donc, il semblerait que le fait que les hémisphères soient de même taille, que les interactions entre les hémisphères soient plus faciles. C'est ça, Dominique ? Je me réfère à Dominique parce que Dominique est conseiller conjugal. Votre pasteur est conseiller conjugal. Donc il a pris tout ça aussi. Et plus que moi aussi. Alors, c'est la connaissance de nos besoins qui nous permet de mieux nous comprendre et de vivre heureux. Je vous dis encore, je vous ai parlé certainement d'un certain monsieur qui s'appelle John Gottman. Et il était directeur de l'Institut et il a pris à cœur d'étudier pourquoi des couples fonctionnaient bien et pourquoi d'autres se séparaient. Et il a passé ça sur 10 années d'études avec son équipe puisqu'il était directeur de l'Institut. Il est arrivé à des conclusions précises parce qu'on prend ses études, on travaille avec ses études. Il est arrivé, par exemple, à trouver à 96,4% des couples qui allaient divorcer dans 5 ans. C'était beaucoup, ça. Mais il a surtout travaillé aussi sur les couples qui fonctionnaient, les couples qui duraient. Et il a tiré comme conclusion que les couples qui fonctionnaient bien, que c'était des couples stratégiques. C'était des couples qui avaient appris comment l'autre fonctionnait sur le plan émotionnel. On nous a parlé ça en classe. C'est dommage. C'est-à-dire qu'on s'intéresse non pas à évaluer l'autre, à juger l'autre, à comparer l'autre, comparer sa manière d'aimer, mais on s'intéresse à apprendre comment l'autre fonctionne sur le plan émotionnel. Alors c'est pour cela qu'on vous dit, c'est quelque chose de très important d'apprendre à connaître comment votre vis-à-vis fonctionne. Sinon, vous allez passer des années votre vie à vous disputer. Pourquoi vous passez des années dans votre vie à vous disputer ? Parce que vous aimeriez que l'autre réagisse comme vous auriez agi pour montrer votre amour. Mais la différence, c'est que l'homme est une femme, l'autre est un monsieur. Et qu'on n'a pas les mêmes codes pour exprimer l'amour. Donc le mariage est un défi d'apprendre à s'écouter. On a des années pour ça, mais n'attendons pas trop tard. Les sociologues ont analysé les styles de communication entre hommes et femmes. Une femme va répéter sa demande tant qu'elle n'obtiendra pas la réponse souhaitée. C'est ça, Lucien ? La mienne aussi. Elle pense que son mari fera ce qu'elle souhaite pour peu qu'il parvienne à lui faire comprendre à quel point elle le souhaite. Mais le mari ne l'entend pas de cette oreille. Un homme estime qu'une demande, sa réponse équivaut soit à un refus temporaire ou soit un besoin de réfléchir comment répondre à la demande. La femme ne le comprend pas comme ça. Alors que la femme pensera simplement qu'elle n'a pas été entendue ou encore qu'elle n'est pas écoutée dans l'émotion qu'elle ressent. C'est bref, mais on peut y revenir. Vous avez compris ça ? Il y a un moment du monde qui a compris ça ? Alors c'est pour cela que des fois, tu n'as pas compris. Alors des fois, Marie me demande de faire quelque chose. Ou je ne comprends pas tout de suite, parce que j'ai besoin de réfléchir. Comment je vais le faire pour le faire bien. Ou bien parce qu'elle me demande quelque chose qui me gêne. Alors elle me le répète, quand je te demande ça. Alors je lui dis, attends Marie, attends, je vais faire ça demain, ou bien attends. Et elle me redemande, parfois une troisième fois. Il y a quelque chose qu'elle fait aussi, c'est que quand elle voit que je ne l'ai pas fait, elle va le faire. Bon, faire. Tu ne t'attendais pas à ce que je dise ça. Hein. Elle va le faire. Et quand je vois qu'elle a fait, ça me gêne. Parce qu'elle m'avait donné l'occasion d'atteindre l'objectif et elle l'a fait elle-même. Donc elle ne me reconnaît pas comme compétent. C'est mon raisonnement. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que l'homme, je l'ai dit tout à l'heure, il a besoin que sa femme reconnaisse sa compétence. Et chaque fois qu'elle a fait quelque chose qu'elle m'a demandé de faire, c'est la réaction émotionnelle que j'ai, elle ne m'a pas estimé compétent, elle l'a fait elle-même. Alors que moi, dans mon souci d'incompétence, je me disais, je vais réfléchir comment bien faire pour elle.
Est-ce que c'est une affaire de compétence?
C'est pas forcément une affaire de compétence. Mais tout ce qu'on dit là, il ne faut pas le prendre de manière absolue. On va rester sur un sujet juste pour vous aider. Parce que des fois, ça peut être une question de mauvaise foi, oui, c'est possible. Mais intéressons-nous au fonctionnement émotionnel, ça nous apprend beaucoup de choses.
Ça va? Alors, malheureusement, les hommes, ils prennent les expressions au premier degré. Malheureusement, les hommes prennent les expressions au premier degré. Une femme, quand elle parle, elle va prendre un langage circulaire pour faire une demande, tandis que l'homme utilise le langage tiré. C'est pas vrai? Nous, les femmes, moi, je le reconnais en moi. Je vais passer par un tas de... pour lui demander, il faudrait dire, vas-y, va au but, dis le truc. Je n'arrive pas à dire le truc, il faut que je passe par. C'est ça, prendre le langage circulaire.
Et c'est pas facile, ça. Et c'est pas facile. Pour l'homme, je sais que c'est pas facile, n'est-ce pas, Bertrand? Parce que dans notre nature, on aime. Elle y va tout but, et la femme, c'est pas ce qu'elle aime. Donc même quand elle sait ce qu'elle veut, il faut créer l'émotion. On a dit tout à l'heure, la femme se définit par la qualité de la relation. Il faut qu'elle crée l'émotion, qu'elle crée la relation pour passer son message. Hein? Souvenez-vous, on a dit tout à l'heure, l'émotion chez la femme, c'est la porte d'entrée. La relation, c'est la porte d'entrée. Et pour nous, c'est pas la porte d'entrée.
Et une fois, j'avais donné un exemple. Ici, j'avais dit que quand un homme téléphone, il appelle, il dit ce qu'il a besoin, puis c'est tout, il raccroche. Mais quand une femme appelle, il faut qu'elle dise comment vas-tu, comment vont ton époux, comment vont les enfants, ici et ça. Faites l'expérience. En général, hein, les femmes, c'est ça. Moi, je suis comme ça. Je le reconnais. Ça ne veut pas dire que toutes, elles sont pareilles. Il y a toujours des exceptions. Parce que je vous ai dit, j'ai ma fille, elle est très scientifique pour elle, c'est ça et c'est ça. Cartésienne. Il y a des exceptions. Alors, vous pouvez essayer de convaincre l'autre que vous avez raison, mais vous n'arriverez jamais à le persuader du tort d'être différent de vous. Vous avez compris ça?
Oui.
Vous pourrez essayer de convaincre l'autre que vous avez raison, mais vous n'arriverez jamais à le persuader du tort qu'il est différent de vous.
C'est-à-dire ce qui pour vous vous donne raison n'est pas forcément valable pour l'homme. Parce qu'il est différent. Moi, je pense que si tu m'aimais, tu ferais comme ça. Je pense que c'est la bonne façon de faire. Et on prend aussi notre interprétation de la Bible pour appuyer ce qu'on dit. Ça va jusque-là. Sans penser aux conséquences. Mais l'homme, Et on pense avoir raison, mais l'autre, il a une autre raison aussi, parce qu'il fonctionne différemment. Il a une autre façon d'interpréter aussi la parole de Dieu.
Alors, difficulté pour l'homme, c'est qu'il ne peut pas interpréter correctement l'insistance de son épouse. Il faudra les donner raison. Quand il se réfère à son propre système de valeurs, il y voit à tort une manifestation d'hostilité ou l'expression indirecte de non. De là, subissant une émotion négative, il peut réagir par des expressions maladroites du genre « tu veux toujours avoir raison » ou encore « tu veux faire ce que tu veux ».
Tu veux que je fasse toujours, tu veux que je fasse toujours ce que je veux.
Oui.
ou bien tu me donnes des ordres. Voilà. C'est sur son système de valeurs qui le fait réagir comme ça. Bon, une fois quelqu'un nous a demandé, lorsqu'on faisait, on travaillait là-dessus, on s'était étalé sur les différences. Et si quelqu'un nous avait demandé, mais si c'est comme ça, on ne va pas se marier. Alors je dis, si un responsable, ce n'est pas moi, c'est le Créateur qui nous a fait comme ça. Et un couple qui vivait des moments très difficiles, ils étaient en voie de divorce, ils n'ont pas divorcé, Dieu merci. Le monsieur, il a dit qu'il a trouvé que la meilleure école que Dieu ait créée pour nous apprendre à aimer, c'est le couple. Ça veut dire qu'il nous a fait différents. Il le sait pourquoi. Si c'était facile de se comprendre, si on avait les mêmes points de vue, on n'aurait pas eu de difficultés à se comprendre dans le couple. D'accord, hein, ce serait plus facile. Mais il y aurait peut-être eu moins de charme, il y aurait eu moins d'école, on n'aurait pas appris des choses. Je crois que mon épouse et moi, on a des points communs. Dieu merci, on s'entend sur certaines choses. On sait rire, on sait rigoler sur certaines choses, mais on sait aussi se fâcher sur certaines choses. Parce que là, on se fâche parce qu'on a des attentes contraires. On a des points contraires. Et chers amis, c'est avec respect que je vous dis ça. On a 45 ans de mariage.
47 ans cette année.
47 ans de mariage. J'attends toujours. Et je vous dis, si au des fois on criait, on pleurait, on se tordait par un conflit, je vous dis, c'est une bonne école. C'est une bonne école. Tout dépend comment nous gérons les conflits, nous terminons les conflits. C'est une école parce qu'elle nous a la contradiction, c'est face à la contradiction que nous apprenons à nous remettre en cause. Lorsque nous arrivons, moi personnellement, lorsque j'arrive à trouver où j'ai tort, je suis content. Mais jamais j'aurais pensé qu'un jour j'allais penser comme ça. On apprend ça aussi avec le Seigneur. On apprend ça avec le Seigneur. Je peux vous dire comme plus belle source d'inspiration. Sincèrement, c'est dans la Bible que je la trouve. Je me demande, mais comment Dieu a fait pour nous aimer? Parce que tous les jours, on fait des choses qui ne lui plaisent pas. Je vous remercie, pasteur. Je sais que Dieu ne m'a pas demandé de faire ça. Mais si le pasteur me dit que je peux ajouter, je ne prêche pas. Dieu ne m'a pas demandé de prêcher. Mais je partage un témoignage avec vous, c'est ça. Je me dis, cette semaine, je disais, mais attends, Dieu envoie Adam et Ève. Adam désobéit. Il envoie des prophètes. Il envoie des prophètes. Nos pères les ont tués tous. Après, il envoie son fils. Et donc, on finit par tuer son fils. Moi, je dis que ce serait peut-être des gens comme nous, comme des chrétiens, qui diraient, crucifie-le, nous ne voulons pas de lui. Il n'a pas changé. Pendant que ce fils meurt sur la croix, il dit, Père, pardonne-le, parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut. Je lui dis, c'est pas possible. Cet amour-là, c'est possible. Et bien, quand je me vois chanter, nous voulons voir ta gloire, où nous disons, au Seigneur, je veux te ressembler, mais je me dis, mais Franz, mais fais comme lui. Fais comme lui, il insiste à aimer. Alors, je voulais simplement vous dire le témoignage. Quand je vous disais que nous apprenons pas la formation, mais je crois que là où je trouve la plus grande inspiration d'amour, c'est dans la parole de Dieu. Que Dieu me garde, parce que je ne veux pas être prétentieux, je ne veux pas parler comme ça, et après glisser sous une peau de banane. Vous comprenez ce que je veux dire? Merci pour cette parenthèse. Alors, oui, t'es devant. Alors, acceptons nos émotions et ne les étouffons pas. Elles ont des choses à nous apprendre. Engagez-vous à les écouter et à les respecter. Certaines personnes ont la parole facile, d'autres sont timides. Mais essayez de parler à votre conjoint de votre ressenti. Revenez sur certaines choses. Vous allez trouver là. Le voyez. Et Là où vous avez exprimé des mots proches, essayez au moins une fois de changer les mots proches par des demandes. Parce qu'une demande appelle toujours une réaction, en réponse à la demande. Mais un reproche appelle une autre réaction, non pas par rapport à la demande que vous vouliez faire, mais une réaction négative. Quand on fait un reproche, généralement, on s'adresse à la personne et non pas au sujet. Quand on fait une demande, on se rapporte au sujet, non pas à la personne. Vous voyez la différence ? Hein? Même quand vous direz, mais pourquoi tu as fait ça ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais pourquoi tu as déplacé le livre ? La personne va répondre que, en se protégeant, ne croit pas que je l'ai fait exprès, par exemple, hein, parce qu'il y a un « tu » là-dedans, qui tue. Pourquoi tu as fait ça ? On s'adressait à la personnalité. Vous auriez dit, pourquoi le livre est déplacé ? Il ne voit pas la même réaction. Vous avez compris, parce qu'on a évité, de faire intervenir la personnalité de l'autre.
Un reproche commence toujours par tu.
Tu ne fais pas bien, tu n'as pas bien fait la vaisselle. C'est un reproche. Et dire, j'aurais aimé que la vaisselle soit mieux faite. C'est une demande. Alors des fois, notre communication génère des problèmes. Parce que nous ne prenons pas suffisamment d'attention. Au risque de blesser la personne, au risque de toucher la personnalité de la personne. Marie, je peux leur donner quelques petits conseils.
Alors, une femme a besoin, m'a dit, des attentions de son mari. Alors, voici certaines choses que vous pourriez faire. Je disais qu'une femme a besoin des attentions de son époux. Voici certaines choses que vous pourriez faire à la maison qui sont des manques d'attention pour votre épouse. Par exemple, vous lui demandez pardon pour vos erreurs et celles que vous avez faites inconsciemment.
Faites-le même si vous avez la conviction de l'avoir eu raison.
Vous lui offrez des fleurs ou un petit cadeau, ça attend forcément un événement quelconque.
Vous le faisiez au début, n'est-ce pas?
Vous jetez la poubelle sans qu'elle vous le demande. Vous rabattez la lunette du WC et puis vous videz sans qu'elle ait à passer après vous. Ce sont des petites choses de tous les jours. De temps en temps, vous faites le lit et vous rangez la chambre.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Qu'est-ce que tu as dit? Ah ben c'est bien. Ah ben c'est formidable. Elle va être contente, Juliette. Alors, ouvrez-lui la porte, venez l'accueillir quand elle sort, faire les courses. Prenez les paquets dans ses mains, prenez-lui les paquets. De temps en temps, lavez-lui sa voiture. Lorsque vous sortez, demandez-lui si elle a besoin que vous lui ramenez quelque chose, un truc que vous aimez, une petite douceur, un truc quelconque. Proposez-lui de l'emmener chez le coiffeur. Ou encore, quand elle vous demande de conduire prudemment, lentement. Ne dis pas non. Tenez-lui la main quand vous êtes en public. N'ayez pas honte. Accordez-lui plus d'attention lorsque vous êtes en public. Lorsque vous arrivez à la maison, cherchez et prenez votre épouse dans vos bras avant de faire quoi que ce soit. Et le matin, quand vous vous réveillez, vous la regardez, vous lui dites que vous l'aimez. Non? Non? Mais je n'entends pas. Vous ne dites pas ça, les hommes? Quand vous vous réveillez le matin, vous regardez votre épouse, même si elle a le visage un peu. Vous ne lui dites pas que vous l'aimez? Et puis, ce qui est bien fabuleux, proposez-lui de temps en temps un massage du dos quand elle vous dit « Ah, j'ai mal là, ça me fait mal, mon dos. » Proposez-lui, n'attendez pas qu'elle vous demande, mais proposez-lui le massage. Elle sera toute contente. Je vous le dis, hein, je suis toujours en train de demander.
Elle profite quand me le demander quand je suis fatiguée.
Bien, eh bien, nous avons juste relevé quelques petits exemples. Il y en a beaucoup, beaucoup, comme a dit Emmanuel, la liste pour les épouses, c'est très long. Mais ça allait vous donner la journée. Et comme on n'est pas là pour la journée, on est là juste pour un moment. Donc, on vous a donné quelques heures. Par contre, je voulais dire aussi, même si vous êtes marié, ça fait longtemps, ça fait des années, ne dites pas, ah, ça ne va pas changer, c'est toujours pareil. Non, pas qu'à quoi. Non, parce qu'avec le Seigneur, il y a toujours des changements. Parce que quand vous venez au trône du Seigneur, au trône de la grâce, au pied du Seigneur, vous lui portez vos prières, vous ne dites pas toujours les mêmes prières, vous changez. Vous ne dites pas parce qu'il va vous dire, oh ma fille, mon fils, réveille-toi, change un peu. Non. Eh bien, c'est pareil aussi. Vous avez vu que les années ont passé, ça n'a pas été ce que vous voulez. Mais il est temps de refaire, il est temps de commencer, il est temps de vous regarder parce qu'on ne se revend pas facilement. C'est vrai que ce n'est pas évident, on ne se revend pas facilement. Mais faites-le, prenez la main, ça tout timide, mais ça viendra. Ça viendra. Vous pouvez lui chuchoter à l'oreille quelque chose. Je vous le conseille. C'était tout ce que je vous avais à vous dire. Franz aussi. Alors, on vous dit merci pour votre attention.
Quand les couples vont bien.
Oui, c'est vrai. C'est
quand les couples vont bien, la famille rayonne et la communauté devient plus vivante.